Bon, bonjour à tous. On commence vraiment à l'heure parce qu'on n'a qu'une heure. Ce n'est pas une session ni un atelier. Donc, on va essayer d'être le plus court possible. Donc, bonjour. Alors, pour commencer, je ferai une très courte introduction parce que l'intérêt, c'est de vous montrer justement en quoi l'IFLA n'est pas quelque chose de lointain, mais tout à fait. Quelque chose qui peut nous aider à réfléchir sur notre profession. Donc le temps est assez loin, je pense, au bout de ces 3 jours de congrès, où l'IFLA, pour nous, les adhérents, représentait un sigle obscur, où les questions internationales semblaient assez loin de nous, de nos sujets de discussion, où les invités étrangers étaient mêlés à la foule des congressistes, mais on n'avait pas tellement l'occasion de les rencontrer. Donc, à la lumière de ce congrès aujourd'hui, là au troisième jour, ce temps semble de plus en plus lointain. Ce congrès nous le montre bien. Et comme cela a été dit par les collègues, et comme beaucoup d'entre vous ont participé à ces sessions où nos collègues étrangers étaient présents, nous avons maintenant bien conscience que, pas seulement à cause de la crise, mais on a tous des préoccupations communes. Et qu'on a vraiment tout intérêt à échanger nos pratiques et aussi à faire connaître les nôtres. Et c'est justement la perspective de ce congrès de l'IFLA à Lyon l'année prochaine qui va nous fournir l'occasion de rencontrer des collègues. Et cet événement, 25 ans après le dernier congrès de l'IFLA en France, c'est quand même pas n'importe quoi. Un petit événement et ça méritait bien qu'on y consacre quelques instants. Et peut-être pour rendre ce sigle moins abstrait, peut-être plus désirable, comme l'a été le thème d'un atelier, plus désirable cette énorme manifestation donc qui rassemble plus de 3 000 délégués intervenants du monde entier. Alors, participer à l'IFLA, ça peut paraître compliqué, hein, encore pour beaucoup. Son fonctionnement peut paraître un petit peu encore mystérieux. C'est pas très facile d'y intervenir, de proposer une communication, voir un poster, voire d'y participer. Mais quand même, on a un certain nombre de collègues français qui sont installés, implantés. Et qui vont vous expliquer justement, et c'est le but de cette heure qu'on va passer ensemble, de vous montrer concrètement l'intérêt de cet IFLA, quoi, qui ne reste pas un sigle ou un site, mais qu'il vous montre un peu à travers les témoignages des personnes qui sont à cette table, tout l'intérêt de cette structure et l'intérêt d'y participer à plusieurs titres. Bon, peut-être vous avez visité le stand, vous aurez encore le temps de le faire jusqu'à ce soir. On peut y participer à toutes sortes de titres, pas seulement en étant membre directement, en tant que bénévole, en tant que boursier, en tant que concepteur de posters, etc. Il y a 1 000 manières d'y participer. Voilà. Donc, je ne vais pas trop m'attarder sur. On va tout de suite passer. Donc, j'ai à mes côtés Viviana Quiñones, donc qui est elle carrément présidente d'une section, la section enfants et jeunes adultes, qui va vous présenter son travail et une action particulière auquel vous pouvez participer. On a déjà fait beaucoup d'informations sur ce projet, mais il faut encore le faire. Raphaël Batz, à ma gauche, donc responsable des relations internationales à l'ENSIB et aussi membre actif d'une section. Et Céline, qui est venue à l'IFLA par le biais d'une bourse et par ce biais-là, continue son activité internationale. Donc peut-être, et dans la salle, bien sûr, il y a Annie, qui n'est pas responsable de la BPI, mais qui va nous expliquer aussi son rôle par rapport à la préparation de l'IFLA 2014, et puis Pascal Sens et bien d'autres présidents du CFIBD, bien d'autres personnes, voilà, qui pourront intervenir après ces présentations pour vous inciter et rendre l'IFLA désirable et avoir envie d'être bénévole, peut-être, ou d'y participer d'une autre manière. Viviana, s'il te plaît. Donc ça, c'est l'IFLA et la section bibliothèque pour enfants et adolescents.
Bonjour, ça va? Bien, je voulais tout d'abord remercier beaucoup Annick Guinery de m'avoir invitée. Je sais que les places sont chères. Et aussi, je voulais la remercier. Ce n'est pas l'IFLA, mais je voulais quand même, en tant que membre de la Commission internationale, la remercier de cette période qu'elle vient de finir comme responsable de la Commission internationale, de son engagement et de tout son travail. Voilà. Donc, je me présente très brièvement. Je travaille au secteur international du Centre national de la littérature pour la jeunesse, La joie par les livres, à la Bibliothèque nationale. Ce que je vais dire aujourd'hui sur l'IFLA, vous allez le trouver aussi dans les pages correspondantes du secteur international de la joie par les livres. On fait d'autres choses. Donc l'IFLA, c'est une de nos actions à l'international. Il y a aussi IBI et d'autres actions. Donc on est en fait à votre disposition pour différents aspects de vos actions internationales à l'écoute. Enfin, voilà. Et donc je vais faire une petite présentation et très très pratique sur un petit peu sur l'IFLA en général, surtout sur ma section. Et surtout en pensant en quoi cela peut être utile à n'importe quelle bibliothèque, quel bibliothécaire qu'il travaille dans une. Enfin, vous voyez, c'est une fédération d'associations de bibliothèques et de bibliothèques. Donc, vous avez des associations et aussi des bibliothèques individuelles qui font partie. Mais même les bibliothécaires qui ne font pas partie, même pas par l'ABF, enfin, ça a de l'intérêt pour tout le monde. Donc voilà un site. Si vous allez sur le site, il se présente comme ça. Il y a plein de choses dans la page d'accueil. Ce qui nous intéresse surtout pour des fins pratiques, vous avez le bloc rouge. Et là, vous voyez trois choses qui sont intéressantes. En particulier, vous avez la Annual Conference, le congrès annuel, et vous avez Activities and Groups, alors les activités et les sections. Vous voyez déjà, il faut un petit peu d'anglais. Hein. Peut-être pas beaucoup, beaucoup, mais un petit peu, c'est utile. Donc, si je vais dans ce menu et je vais à Activities and Groups, vous allez voir en bas de la page qu'il y a des sections et des groupes d'intérêt particuliers qui sont comme des mini-sections. Donc, moi, c'est la section bibliothèque pour enfants et adolescents, mais vous voyez qu'il y a énormément d'autres sections qui peuvent vous intéresser. Et donc, vous cliquez et vous tombez sur les pages de la section ou du groupe en question. Et donc, chaque section va avoir ce modèle de page et avec les mêmes rubriques listées à gauche, c'est-à-dire une information sur le groupe, des actualités, des événements, des publications, des projets, les congrès. Vous avez aussi le Standing Committee, donc chaque section a un comité. Le nôtre a 22 ou 23 membres, et cette fois, je crois qu'on va avoir, c'est assez un record, je crois qu'on va être 4 personnes de France dans le comité bibliothèque pour la jeunesse. Voilà, donc, pour chaque section, ce sera la même chose. Donc, je vais commencer pour la mienne avec les publications qui peuvent vous intéresser. Si vous cliquez sur publications, il y a les guidelines et les recommandations. Là, vous avez 3 manuels sur les bibliothèques pour enfants en général, un autre spécialisé bébé et petite enfance, et un autre livre de recommandations pour les jeunes adultes, adolescents et jeunes adultes. Si vous cliquez, vous allez trouver les textes en français, vous pouvez les imprimer. Et donc, ça donne des indications qui ont été élaborées avec des bibliothécaires du monde entier. et qui donne vraiment beaucoup d'idées et aussi des éléments pour pouvoir défendre sa propre bibliothèque à l'extérieur. Et le fait que ce soit un document international, ça apporte toujours un poids. Et donc, vous voyez à côté des guidelines, en bas, vous voyez newsletters. Donc, deux fois par an, nous publions une revue. Et là, vous avez deux exemplaires que j'ai imprimés. Hein, c'est simplement des PDF à imprimer avec des articles sur ce qui se passe dans la bibliothèque du monde entier. Et là, vous pouvez bien sûr le lire, mais aussi vous pouvez collaborer. Et là, pour la première fois, on a aussi des articles en français. Et donc, on essaye de faire en français et en anglais. Mais vous pouvez soumettre en français. C'est vrai qu'on est content si vous pouvez aussi fournir la traduction. Donc, ça circule. Voilà. Après, les congrès. Donc, chaque année, en général, on fait un pré-congrès ou un post-congrès. Et lui, il est centré sur les bibliothèques jeunesse seulement. Donc, cette année, par exemple, on fait... On fait un pré-congrès à Bangkok. Je ne sais pas si ça... Je vais pouvoir ouvrir le lien. Donc, le congrès de cette année, le sujet, c'est préserver, conserver et donner accès à toutes les formes de manifestations culturelles des jeunes. Et donc... l'année prochaine, et en 2014, on va essayer de faire un congrès satellite à Paris, après celui de Lyon. Et le thème sera les jeunes adultes. Donc, chaque année, c'est comme ça. Et après, au congrès principal, on a des sessions spécialisées à la bibliothèque jeunesse. Deux sessions, une session en général, une sur site et une sur une bibliothèque qu'on va visiter. Et on fera pareil donc l'année prochaine. Ce qui est très intéressant, c'est que parfois on peut assister, mais souvent c'est difficile. Là, c'est à Singapour, bon, c'est pas évident d'aller à Singapour. Mais les communications des congrès, elles sont toutes en ligne. Certaines traduites. Donc en fait, c'est une mine de pour tout le monde, d'aller voir ce qui se passe partout dans le monde. Je vais voir si je peux ouvrir comment ça se présente. Si vous allez sur Annual Conference et après la conférence en question, le congrès en question, les communications des sessions vont être là. Là, je vous ai mis, par exemple, une session l'année dernière à Helsinki et vous cliquez sur la communication et vous lisez la communication. Voilà. Si on revient à ce schéma de base et on va au projet, donc j'arrive aux deux projets que nous avons actuellement en cours. Donc on propose des actions concrètes pour les bibliothèques dans cette section. Là, on a deux actions en cours. La première, c'est le monde à travers les albums. Les bibliothécaires de chaque pays choisissent les 10 albums préférés des bibliothécaires par rapport à comment ils marchent avec les enfants. Là, c'est les critères de sélection que nous avons établis. Si vous voulez les lire, peut-être certains d'entre vous ont participé pour la sélection française. On s'est occupé... à la Bibliothèque nationale et on a envoyé un mail. Je sais qu'il y a pas mal de bibliothèques qui ont répondu. C'était un échantillon. Et donc, vous avez le catalogue qui circule. C'est un catalogue multilingue, si vous voulez le faire passer. Et il y a 36 sélections déjà. Et avec la présentation des livres, la description en anglais et dans la langue d'origine. Et il y a 6 ou 7 pays francophones. Ce qui est plus intéressant, c'est qu'on a constitué une exposition avec ces collections. Et donc, nous avons un jeu à la Bibliothèque nationale Et cette exposition, on la prête gratuitement. Il faut seulement prendre en charge les frais de transport et d'assurance. Donc, ce sont des livres. Hein. Ce sont 10 livres par pays et il y a une trentaine de sélections. On l'a présenté récemment à la foire de Bologne. Il a eu beaucoup de succès. C'est très intéressant comme exposition. Et le deuxième projet en cours, c'est le projet Sister Libraries, bibliothèque partenaire. Et il y a des marque-pages aussi à faire passer, où vous allez trouver les adresses Internet, les URL. Mais en fait, donc c'est un cadre que nous proposons pour que toute bibliothèque jeunesse puisse trouver une bibliothèque partenaire à l'étranger. Pour échanger au niveau des bibliothécaires ou pour faire des actions conjointes. Donc, tout est expliqué dans cette URL. C'est sur le site de l'IFLA. Et vous allez voir, toute bibliothèque peut participer. L'idée, c'est tous les bénéfices de l'échange. Hein. Parfois, on est isolé, parfois, on est un peu endormi. On veut communiquer avec des collègues étrangers, on veut échanger des idées, partager. Donc, toute bibliothèque peut participer. Ça ne coûte rien, sauf le temps nécessaire et une connexion Internet. Donc, vous remplissez un formulaire, vous l'envoyez, et après, votre formulaire est mis sur Internet, sur une liste par pays. Et donc, vous voulez voir, par exemple, le premier, vous cliquez, vous trouvez l'affiche. Vous voyez quelle est l'adresse de la personne, vous la contactez et c'est comme ça que ça se passe. Et après, vous prévenez pour qu'on puisse indiquer jumeler avec une bibliothèque ou une autre. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce que des bibliothèques ont fait avec en étant partenaire? Peut-être Cécile Huot vous en parlera, mais elle a travaillé pour une bibliothèque au Togo qui est jumelée avec une bibliothèque parisienne. Et il y a des échanges par mail, les lecteurs communiquent. Et aussi, il y a eu un don de livres très réfléchi, issu du désherbage. Donc, c'est une manière de faire un travail de coopération solidaire. Et il y a des bibliothèques Europe, par exemple. Il y a un partenariat entre la Suède et la Suisse et la Russie. Et eux, ils se sont rendus visite. Il y a eu des visites professionnelles de membres du personnel. Ils ont fait, par exemple, un projet jour par jour, une photo de chaque bibliothèque pour voir la vie quotidienne de l'autre bibliothèque. Donc, les bibliothécaires étaient contents d'arriver le matin et prendre la photo du jour, qui était parfois endormie avec un café. C'est pas grave. D'autres fois, c'était des animations avec les enfants. Il y a plein de projets intéressants. Je ne peux pas tous vous raconter. Et il y en a certains qui sont dans le blog, parce qu'on a un blog et qui n'est pas très, très utilisé, mais au moins là, vous avez une activité qu'on propose. On est un petit peu force de proposition. Et cette activité, elle est faite à partir d'un livre qui s'appelle « Mon livre préféré », qui circule aussi, fait à une bibliothèque au Burkina Faso. Et c'est un livre de photos où des enfants se présentent avec le livre qu'ils préfèrent et pourquoi. Et donc, dans le blog, vous avez la description de l'activité que vous pouvez faire avec une autre bibliothèque. Donc, créer artisanalement avec les enfants un petit livre électronique ou bien imprimé. Et pour faire cette activité, et on vous envoie gratuitement le livre burkinabé. Voilà. Et finalement, là, je suis à votre disposition pour vous aider si vous voulez vous inscrire. Il n'y a pas assez de bibliothèques françaises. On nous demande. Il y a des bibliothèques africaines qui attendent, qui n'ont pas. On a par exemple la Bibliothèque Alexandrina en Égypte qui est inscrite et qui n'a pas de bibliothèque partenaire. Il y a des bibliothèques intéressantes qui attendent. Et ça peut être simplement un mail par mois. Je veux dire, vous n'êtes pas obligé de faire de grandes opérations. Et finalement, on a une liste de diffusion, la section a une liste de diffusion Pour s'abonner, vous faites cette recherche, vous tombez sur cette page et il faut s'inscrire à partir de cette page. Et une fois que vous êtes inscrit, une fois, après, vous recevez des informations un peu de partout, surtout de la section, mais parfois d'autres, des demandes d'informations. Et vous pouvez aussi poster des informations à l'international. Je vais voyager à tel pays, est-ce que je peux aller visiter une bibliothèque ou une question quelconque, comme toute liste de diffusion. Voilà, je crois que mon temps est passé. Merci beaucoup. Merci.
Bon, merci Viviana. Il faut dire que la section qu'elle préside est particulièrement dynamique. Et je crois que c'était bien de commencer par cette présentation très concrète. Vous voyez, même depuis le site, d'ailleurs c'est le cas pour toutes les sections, vous pouvez avoir déjà une mine d'informations, c'est déjà un premier pas. Donc en partant du congrès, faites un petit clic sur le site de l'IFLA, vous découvrirez beaucoup d'autres choses. On va continuer sur... Alors là, ça concerne évidemment beaucoup les bibliothèques publiques. On va continuer un petit peu sur... un autre témoignage, celui de Raphaël, qui est aussi membre d'une section, mais qui va aussi vous parler d'autres aspects de l'IFLA.
Bien, bonjour. Raphaël Batz, Relations internationales à l'ENSIB, et c'est avec ce poste-là que je suis allée pour la première fois à un congrès. Avant ça, c'est pas que j'avais pas entendu parler de l'IFLA, mais c'est que je trouvais ça assez compliqué de savoir qu'est-ce qui était l'IFLA, qu'est-ce qui ne l'était pas. J'avais bien vu qu'il y avait des congrès avant l'IFLA, mais est-ce qu'il fallait s'inscrire à l'IFLA ? J'avais eu la possibilité de partir à ce qu'on appelle les conférences satellites, ça c'est pré-congrès de l'IFLA, en formation continue, mais je ne savais pas trop est-ce que du coup j'avais participé à l'IFLA. Bon, tout ça, ce n'était pas clair pour moi. Et en étant chargée de relations internationales, je représente l'ENSIB à l'IFLA et donc j'ai commencé à m'y intéresser de plus près, à essayer de comprendre. Et en vérité, ce n'est pas si compliqué. Et en venant en 2014 à Lyon au congrès IFLA, vous comprendrez tout et sera bon pour les 25 années suivantes. Donc, je vous invite à venir en 2014 si au cas où vous n'auriez pas déjà compris le message. Donc en fait, moi je suis élue dans une section qui est la section théorie et recherche en bibliothéconomie, ce qui n'est pas très étonnant pour l'ENSIB, hein, puisqu'on a une part importante de recherche et puis que je fais moi-même de la recherche, je ne travaille plus dans une bibliothèque. Ce qui veut dire aussi que l'IFLA, c'est ça, ce sont des bibliothécaires, des documentalistes, professeurs documentalistes, tout un ensemble, des archivistes, etc., mais aussi des chercheurs en bibliothéconomie, des formateurs en bibliothéconomie, des étudiants en bibliothéconomie, etc., etc. Et ça, c'est quand même important, ce qui permet aussi à l'IFLA d'être un lieu véritablement d'apprentissage et de formation. Enfin, en tout cas, moi, j'en retire énormément chaque année dans les conférences, puisque se mêlent aussi bien des gens qui vont apporter des choses théoriques et des gens qui vont rapporter des retours d'expérience. Voilà. Parce que le retour d'expérience, je ne sais pas vous, mais moi, au bout d'un moment, ça me lasse s'il n'y a que le retour d'expérience, que ce soit du retour d'expérience de tout pays. Mais quand, en plus, il y a un travail un peu théorique autour, ça donne sens à tous ces retours d'expérience et les choses se croisent vraiment. Il y a vraiment quelque chose de fort qui se passe. Donc, dans ma section, pour vous donner... je suis élue dans cette section, c'est une chose, mais je suis en plus élue au sein de ce qu'on appelle le standing committee, c'est-à-dire, en gros, les bureaux des sections. Je suis élue, j'ai été nommée plutôt Information Coordinator, donc en gros chargée de communication. Donc on s'occupe, alors quand je dis on, c'est parce que je suis chargée de ça, mais comme je suis un peu une tortionnaire, j'ai mis mes élèves à l'amende et ils travaillent avec moi là-dessus. Donc j'ai une équipe d'une quinzaine d'élèves qui travaillent avec moi à ce qu'on fasse la communication de cette section. Donc on tient un blog, on tient un compte Twitter, qu'est-ce qu'on fait d'autre ? On tient les news, on fait des newsletters, etc. Ce que vous a montré Viviana, c'est leur feuille de leur petit journal, il est très conséquent. Nous, c'est pas aussi conséquent, mais ce qui est sûr, c'est que toutes les sections à peu près proposent des journaux comme ça, proposent des comptes Twitter ou des blogs, les uns ceci, les uns cela. Il y a vraiment plusieurs façons de suivre les sections. Ma section propose des choses assez intéressantes aussi, selon les années, selon les projets. Mais notamment, il y a eu une dynamique que j'aime beaucoup, qui était du mentorat, en fait, entre un chercheur qui accompagnait un bibliothécaire qui était en poste pour faire des recherches pratiques et comment on va dire, dynamique dans une bibliothèque. Alors ça peut être de la recherche statistique ou de la recherche ethnographique, etc., mais accompagnée par un chercheur avec après rédaction d'un article et présentation de l'article dans les conférences. Alors je dis que moi, ma section, c'est théorie et recherche, mais enfin on fait des choses qui concernent les bibliothèques de très près, hein. Cet été, par exemple, on fait une conférence sur la diversité dans les bibliothèques, mais en s'y intéressant aussi du point de vue de la recherche, c'est-à-dire quelle recherche en bibliothéconomie aussi pour pouvoir penser la diversité dans les bibliothèques demain. Et l'année prochaine, on va travailler sur les bibliothèques qui brûlent, d'accord, les bibliothèques vandalisées, tout ça, et on va travailler là-dessus du point de vue de la recherche. Donc, vous voyez, en fait, les choses se croisent beaucoup. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ce qui est vraiment intéressant aussi à l'IFLA, donc outre ces sessions comme ça qu'on va suivre, ou les sections auxquelles on est abonné et les réunions dans lesquelles on se rend, c'est aussi qu'en fait on rencontre un nombre extraordinaire de collègues avec lesquels on garde contact véritablement, c'est-à-dire qu'on se fait vraiment un réseau, mais un réseau professionnel qui est utile évidemment si ça vous intéresse pour votre carrière, c'est aussi une bonne raison après tout, mais c'est aussi utile pour tout simplement échanger, avoir des informations sur ce que font les uns les autres. Et donc moi maintenant aujourd'hui je peux tout à fait contacter un collègue aux États-Unis à Washington, ou un collègue en Serbie, ou une collègue au Japon, etc., pour dire comment vous faites vous dans votre bibliothèque pour faire tel travail statistique, etc., etc. Et j'ai véritablement des réponses directes parce que ces gens je les connais. Voilà. Ce n'est pas juste des contacts via un site web, ce sont véritablement des gens que je connais. Voilà. Autre point, je suis entièrement d'accord avec Viviana, il y a une ressource inépuisable sur le site web à partir des articles que vous trouvez qui sont vraiment, vraiment intéressants. Un certain nombre sont du retour d'expérience, mais ils sont intéressants parce que quand on les compile, on se rend compte de la diversité des actions qui parfois sont très ressemblantes à ce qu'on fait. Et là, ça devient intéressant à ce niveau-là, ou parfois sont tellement différentes qu'elles nous interrogent sur ce qu'on fait, nous, au quotidien, en bibliothèque, en France. Voilà. Et la dernière chose que je voulais vous dire, et là, c'est encore un appel pour venir à l'IFLA 2014, mais c'est qu'on se rend compte aussi de l'image qu'ont les gens, nos collègues à l'étranger, des bibliothèques françaises. Et je raconte toujours la même histoire, je suis désolée pour ceux qui l'ont entendu 2000 fois, mais ma collègue japonaise avec qui j'organise cette conférence sur la diversité cet été, a eu l'occasion de me dire quand on a commencé, c'est bien qu'on fasse ça parce que vous, en France, vous avez des bibliothèques dans le sud de la France qui sont dirigées par le Front National, et donc il n'y a pas de livres en langue, dans des langues africaines. Alors, j'ai dit, mais de quoi parlez-vous? Et j'ai dit, oui, ce fut peut-être vrai, ça ne l'est pas, et surtout, ça remonte quand même maintenant à un certain nombre d'années, et néanmoins, les mauvaises nouvelles ont la vie plus dure que les bonnes nouvelles. Il me semble vraiment très important qu'on montre ce que sont les bibliothèques françaises aujourd'hui, parce que si cette collègue-là, qui est chercheuse dans une université à Tokyo, a cette idée-là, vous pensez bien qu'il y a un certain nombre d'autres personnes qui l'ont aussi. Heureusement, tout le monde ne pense pas ça des bibliothèques françaises. Loin de là, il y a beaucoup de gens qui d'abord connaissent la France, etc. Mais je pense qu'il est de notre devoir aussi de partager les bonnes idées que nous avons et montrer que nous sommes quand même autrement plus dynamiques que nous avons pu l'être peut-être il y a quelques années. Voilà, donc voilà pourquoi je vous encourage à venir. Et donc, comme disait tout à l'heure Annick, il y a dans cette salle des personnes qui sont engagées dans l'IFLA 2014. On en reparlera peut-être plus tard, mais ce qui est sûr, c'est que de toute façon, suite à cette rencontre, nous, on vous invite à venir sur le stand pour continuer la discussion avec toute l'équipe projet qui s'occupe de l'organisation de cet événement. Et puis, on vous en parlera en détail. Merci.
T'es pas applaudi. Oh, quand même!
Bon, je passe la parole à Céline, qui, elle, alors, était boursière, hein, a démarré comme boursière, après, donc, comme l'a dit Viviana, hein, une expérience au Togo. Et elle continue maintenant, hein, elle est prise par le virus. À toi.
Bonjour. Je vais vous raconter un peu comment je suis venue à l'IFLA et ce que ça m'apporte, c'est ce que ça m'a apporté et ce que ça m'apporte. Donc, j'ai entendu parler la première fois de l'IFLA quand j'étais étudiante à Rennes et ensuite à Aix-en-Provence, notamment par le manifeste IFLA UNESCO, qui est vraiment un texte fondateur. Ensuite, j'ai suivi les listes, certaines listes de diffusion de l'IFLA. Je crois que chaque section a sa liste de diffusion. Je vous invite à vous inscrire. Il y a vraiment combien de sections ? 42 sections, donc vous trouverez forcément un intérêt quelque part. J'avais mis des apports et des remarques sur le code de déontologie du bibliothécaire. À un moment, justement, par le biais des listes de diffusion, il demandait aux personnes intéressées d'émettre leurs avis. Et j'avais mis mon avis. Maintenant, le texte est mis à disposition de tous. Voilà. Après, j'étais en poste au Togo pendant 2 ans dans une maison de quartier dans le réseau de lecture publique togolais. Et c'est à partir de là que j'ai vu passer un appel à communication par le biais de la newsletter. C'était le congrès satellite en Finlande en 2012. Et c'était la thématique, c'était bibliothèque jeunesse, repoussant les frontières. Voilà, repousser les frontières. Donc j'ai trouvé que ça collait un peu avec ce que je faisais à l'époque et avec mes intérêts aussi professionnels. Et j'ai soumis un texte qui s'appelait « Bibliothécaire sans frontières, Bordelaise Librarian », qui est disponible sur le site du congrès satellite. Voilà. Ensuite, j'ai soumis un poster qui a été accepté sur les bibliothèques de rue. C'était un poster bilingue en anglais et en français qui a été... les posters, je vous explique un peu. Les posters, un moyen d'intervenir aussi pendant le congrès. L'année dernière, il y en avait quasiment 200 sur des thématiques très, très diverses. Et bon, par exemple, les bibliothèques de rue, c'est un moyen de diffuser un concept ou des pratiques qui vous tiennent à cœur. De parler de votre établissement, etc. C'est très large, c'est très ouvert. Vous verrez l'année prochaine, en parcourant les posters, c'est très, très diversifié et intéressant. Donc, j'ai soumis ce poster qui a été accepté et j'ai fait une intervention aussi sur l'évaluation du projet bibliothèque partenaire Sister Libraries, dont a parlé Viviana tout à l'heure, parce que dans le cadre justement d'un partenariat qu'on avait mis en place entre la maison de quartier Stège, c'est la maison de quartier au Togo, et la bibliothèque Gutenberg de Paris, voilà, du 15e arrondissement. C'est une bibliothèque à vocation jeunesse, exclusivement. Voilà. Donc, j'ai déposé voyant que ces communications, ces posters étaient acceptés, j'ai déposé un dossier de candidature à la bourse bibliothécaire français au CFIBD et mon dossier a été retenu, donc merci beaucoup voilà. Donc suite à ça, avant le congrès, j'ai fait 2 traductions de textes de la section, justement. J'ai pu rencontrer pendant le congrès les deux personnes qui ont écrit ces textes, et c'était plaisant. Et pendant ce congrès, j'ai pu prendre contact avec la commission internationale de l'ABF, dont je fais partie maintenant, le CFIBD bien sûr, et l'AIFBD aussi, en participant à l'Assemblée générale. Voilà. Et ce congrès, ça m'a permis de partager mon expérience que j'avais à Stège, peut-être éventuellement de donner envie à certaines personnes de partir aussi, découvrir un peu comment on travaille à l'international, de diffuser le concept de bibliothèque de rue, qui sera bientôt sur le site Bibliothèque dans la Cité, le site, c'est ça ? Bibliothèque ? Voilà, c'est ça. Et de découvrir aussi des bibliothèques scandinaves dont on parle beaucoup. J'ai visité 5 bibliothèques au total en Finlande et c'est formateur, c'est intéressant. Parler avec des bibliothécaires et voir leur association aussi qui est très très dynamique. Bon, ça, c'était pendant le congrès. Donc, pendant le congrès, j'ai aussi découvert des sections auxquelles je n'aurais pas forcément pensé en assistant à leur session publique. Et notamment la section Literacy and Reading, alphabétisation et lecture, qui... Et j'ai été très intéressée par la déclaration de Tunis que vous trouverez dans la newsletter et sur le site internet de l'IFLA. C'est autour des problématiques intergénérationnelles en bibliothèque publique. Et j'ai aussi découvert le BSLA, ça s'appelle Building Strong Library Association. C'est un dispositif de renforcement d'association. Et ça m'a permis de rapporter toutes ces expériences aux jeunes réseaux, associations de bibliothécaires Lire Togo. Vous trouverez également des informations sur cette association sur Internet. Donc c'était encore un transfert de compétences, cette fois au retour. Voilà, donc j'ai assisté à beaucoup de sessions publiques. Et j'étais observatrice pendant les standing committees, les comités permanents. Et j'ai rencontré des professionnels étrangers. Bon, ça a déjà été abordé, mais c'est vraiment intéressant. C'est quand même une occasion rare. Voilà, donc maintenant, depuis le retour du congrès, j'ai postulé pour faire partie du comité permanent de la section des bibliothèques jeunesse. J'ai été élue, donc c'est parti pour 4 ans, c'est des mandats de 4 ans. Et je vais continuer quelques traductions avant le congrès de Singapour. Vous pouvez aussi vous faire des traductions, c'est recherché d'ailleurs. Vous pouvez contacter le CFIBD ou la IFBD qui organise tout ce travail de traduction. C'est bien pour travailler son anglais ou son espagnol, et puis c'est un apport quand même, parce que les textes qui ne sont pas traduits rencontreront moins d'intérêt par la communauté francophone aussi. Voilà. Je ne vais pas revenir sur le site internet qui est extrêmement riche, le site de l'IFLA et le site du congrès où vous trouverez toutes les communications. Moi, ça m'a renforcé mon intérêt pour l'international. Voilà. J'ai écrit un article dans la newsletter, le premier article bilingue français-anglais. Et à propos du prix Chronos, c'est un prix français de l'Institut de gérontologie. C'est ça, mis en place. Et la déclaration de Tunis qui était aussi annexée à cet article-là. Et bon, bah ce que ça m'apporte, en gros, c'est de voir un peu que toute la gamme des préoccupations des bibliothécaires. Parce que quand on travaille dans sa bibliothèque, on a tendance à oublier que bibliothécaire, c'est un métier... Enfin, il y a un nombre de postes différents, de préoccupations différentes, de problématiques de travail. Et... même si on a les mêmes missions, les mêmes motivations à la base, et le fait de rencontrer ces professionnels étrangers, ça, des fois, ça refasse un peu avec certaines missions, parce que des fois, on en oublie. Et on rencontre aussi les autres associations professionnelles. Et on s'informe aussi sur l'actualité des bibliothèques. Ça, c'est important aussi. Voilà, c'est la formation tout au long de la vie. Merci.
Merci Céline. Je crois que c'était une illustration très vivante, très concrète et très, très émouvante aussi. Ah, tu as oublié. Elle en rajoute une couche. Il faut dire que c'est un vrai globe-trotter. Je ne sais pas si on a tous les mêmes capacités. Je voulais rappeler aussi, puisque tu as parlé de posters, que la revue Bibliothèque, notre revue, rencontre régulièrement, enfin au moins une fois par an déjà, de congrès de l'IFLA par un dossier thématique, enfin, qui essaie de, justement là aussi de vous rendre assez concret les thématiques envisagées. J'espère que vous les avez lues, ces articles. et que vous n'avez pas jeté les numéros, et qu'il y avait tout récemment justement un article sur les posters que j'avais fait, sur les posters d'Helsinki, qui vous restituait vraiment une variété de thématiques parfois très, très décoiffantes. Donc bon, ça, les numéros sont encore disponibles. Bon, avant de, j'espère que ça vous a convaincu, mais on va continuer. Avant de donner peut-être la parole, enfin donner, poser quelques questions, j'ai encore quelques témoins clés dans cette salle qui veulent peut-être ajouter des choses. Je pense qu'à Annie, Pascal, le chef de projet, voilà, si vous voulez dire un mot, peut-être Annie, non, c'est ce que tu veux. Bon, Pascal, peut-être. Oui, peut-être vous vouliez rajouter des choses par rapport à cette force de conviction qu'on a essayé de vous transmettre, mais sinon, on peut poser des questions.
Oui, bonjour, moi je suis Étienne Makiewicz, directeur adjoint de la BML de Lyon. Donc, je travaille au sein de l'équipe projet qui prépare le congrès de l'IFLA à Lyon de l'an prochain. Je voulais juste ajouter une précision par rapport à ce qu'ont rapporté Viviana et Raphaël. C'est que l'IFLA, à partir de Singapour, mettra sur leur site internet les contributions que vous avez vues à l'écran. Et ça, c'est déjà un apport scientifique extrêmement important. Mais aussi les présentations, donc les diaporamas, les prédits des congressistes dans leur langue. Et ça, c'est une nouveauté qui était très attendue et qui va vraiment pouvoir contribuer pour vous, pour votre lecture, je dirais, rapide, à rentrer dans toute cette matière et puis aussi à la partager dans vos établissements. Donc ça, c'est une nouveauté à partir de ce congrès à Singapour de l'IFLA. Voilà. Et donc, sinon, par transition, j'en profite, avant les questions-réponses, nous avons essayé de synthétiser un certain nombre d'informations sur des tracts qu'a contribué Annie à élaborer avec son équipe communication, qui sont juste à votre disposition sur cette table et au stand IFLA, voilà, que Céline montre. Voilà.
Est-ce qu'il y a dans les contributeurs des questions cette fois ?
Il n'y a pas de porteur de micro. Alors, vous passez le micro mutuellement. Oui, éventuellement. Bon, ben, Annie, attends, Pascal, après.
Alors, pas forcément, je ne pourrais que dire ce qu'ont déjà dit mes collègues. Donc, pour insister vraiment sur l'apport que ça représente, de participer à l'IFLA ou déjà de consulter le site où on trouve énormément de choses. Donc moi, je suis dans la section des bibliothèques publiques et par exemple, il y a 2 ans, on a eu une session extrêmement intéressante sur les projets de bibliothèques dans le monde entier. Et c'était vraiment à la fois passionnant de voir le partage des préoccupations, les réflexions sur des nouveaux projets de bibliothèques. Je me souviens de quelque chose qui m'avait frappé, c'est une bibliothèque au Canada, à Halifax, qui avait toute une démarche pour associer les citoyens à la réflexion même sur la bibliothèque, mais une vraie réflexion en amont. Donc voilà, donc je redis là ce que tout le monde a dit. Savoir aussi, vous ne le savez pas forcément, mais si vous êtes dans une bibliothèque publique, vous savez que le ministère de la Culture utilise maintenant une catégorisation des bibliothèques, que ces catégories ont été proposées en France par l'Association des directeurs de bibliothèques départementales de prêt. Mais qu'à l'époque, j'en faisais partie et je suis allée à une conférence satellite de l'IFLA à Montréal sur la question des statistiques. Et du coup, confronter les indicateurs que nous étions en train d'élaborer au sein de la DBDP avec les indicateurs, la même préoccupation au niveau international, a été quelque chose qui nous a énormément aidés et confortés. Voilà, donc je ne sais pas s'il faut que je continue parce que je vais donner d'autres illustrations, mais c'est toujours la même chose, cette conviction cette façon de rencontrer, d'élargir son horizon, de découvrir que à la fois les préoccupations sont communes et les situations sont différentes. Et peut-être ajouter quelque chose là, ça me paraît vraiment important, et l'IFLA en France, ce sera une occasion, mais on peut le faire tous les ans, sauf que là, ce sera plus facile pour nous, c'est de valoriser les bibliothèques françaises, de faire parler de ce que font les bibliothèques françaises. Et là, ce sera plus facile d'être présent sur l'IFLA. Et donc, on essaiera, donc l'équipe projet essaiera aussi de vous tenir au courant, donc ça, ça va être plutôt en début d'année prochaine, des dates à ne pas manquer pour proposer des présentations, pour faire des posters. Et donc, on fera vraiment ce travail à la fois parce qu'on en, sur le site de l'IFLA, on pourra le faire, et sur le site aussi du CFIBD.
Je crois que Pascal a demandé la parole. Après, on pourrait poser toutes sortes de questions.
Pascal Sens, président du Comité français international bibliothèque et documentation, le fameux CFIBD qui, entre autres activités, chaque année depuis 15 ans, distribue des bourses à des bibliothécaires et documentalistes français et étrangers francophones du Sud pour participer au congrès IFLA. Et depuis 2 ans, nous donnons également des bourses pour participer à d'autres congrès internationaux, notamment LIBER et EBLIDA. Ce sur quoi je voudrais insister, parce que je devance peut-être l'une des questions que vous pourriez avoir présente à l'esprit, c'est et comment on se débrouille du point de vue linguistique dans l'IFLA et dans un congrès IFLA. Alors, il vous faut savoir en quelques mots que l'IFLA, d'abord, apporte une grande attention à l'aspect multilinguisme. L'IFLA a 7 langues de travail. L'anglais, l'espagnol, l'allemand, le russe, le chinois, l'arabe, le français. C'est-à-dire une langue de plus que l'UNESCO. Et parmi les directions stratégiques de l'IFLA actuellement, il y en a 5, je vous épargnerai, enfin elles sont toutes intéressantes, mais l'une d'entre elles est explicitement le développement du multilinguisme au sein de l'IFLA. Alors qu'est-ce qui s'y passe ? Eh bien, d'abord, une bonne partie des séances de travail au sein du congrès, pas toutes, hein, parce qu'il y a tout de même quelque chose comme 250 réunions dans un congrès IFLA. Donc, une partie d'entre elles, les plus importantes, celles qui se tiennent dans les grandes salles, bénéficient d'une interprétation simultanée dans les 7 langues. En plus, l'année prochaine, au congrès IFLA 2014, le comité national va financer une salle supplémentaire pour assurer l'interprétation simultanée entre anglais-français, français-anglais, parce que la majorité des communications se fait en anglais. Donc, soyez tranquilles sur le fait que si vous venez au congrès l'année prochaine, vous pourrez bénéficier dans votre langue, dans notre langue, de l'essentiel des communications scientifiques et professionnelles. Par ailleurs, pendant le congrès, tous les jours, il y a des informations qui circulent dans tous les sens. Avant, c'était sous une forme imprimée, ça s'appelle l'IFLA Express, un petit journal quotidien. Maintenant, c'est sous forme électronique, le site web, les blogs, etc. Et on a une équipe de traduction qui traduit tous ces messages à l'attention des congressistes pour qu'ils bénéficient au maximum du congrès. Et enfin, gros boulot qu'on a mené sur l'année dernière et cette année jusqu'au début mai, le site web dont on vous a beaucoup parlé, qui est une mine d'informations, qui comprend déjà beaucoup de documents professionnels en traduit. Le fond du site, enfin, tout son environnement, est quand même essentiellement anglophone. Et il a été décidé qu'on le rende, j'ai dit décidé au sein de l'IFLA, qu'il devienne un site multilingue. Et ça ne se fait pas comme ça. Il faut donc traduire les pages web du site. On a donc identifié ce qu'on appelle une masse critique des pages web du site et pour la partie francophone, on les a traduites, on a fini au mois de mai. Après, il faudra une mise à jour permanente, il faut qu'on s'organise pour ça. Et donc, dans quelques temps, ce site web que vous voyez actuellement en anglais, ça vient d'être fait pour l'espagnol, ça va être fait pour le français. Une bonne partie des pages va être également en français, en plus des textes de communication, etc., dont il a déjà été question. Et ça, je crois que c'est important pour le public français et francophone.
Merci, Pascal. J'en profite quand même, je reviens un peu en arrière. Je voudrais quand même rendre un homme. D'abord, vous dire que le CFIBD, ça veut dire Comité français international bibliothèque documentation, ce qui n'était pas forcément évident pour tout le monde. Et puis, justement, quand même rendre un hommage à cette association et à son président qui a quand même déployé cette force de conviction pour obtenir le congrès en France, qui n'était pas du tout une idée évidente au départ. Voilà. J'aimerais bien qu'il y ait... Bon, si vous avez des questions concrètes, allez-y.
Bonjour, donc Chantal Ferreux, je suis de Chenaux, c'est une ville moyenne à côté de Dijon. Moi, je n'ai pas de questions, je suis arrivée en me disant « Ah, l'IFLA, j'en rêve depuis longtemps, mais c'est trop compliqué, je ne comprendrai rien. Ah ouais, il va être à Lyon, donc c'est bon, je pourrais peut-être me débrouiller. Et en fait, je serai volontaire, je viens, je veux bien faire n'importe quoi. Et j'ai déjà commencé à réfléchir, j'ai une copine prof d'anglais en retraite, donc je la sollicite lundi pour arriver à parler à peu près. Enfin, comprendre moi ce qu'on me dit, être capable de répondre à peu près correctement. Et je trouve en effet que c'est une occasion inespérée, quoi. C'est le, vraisemblablement le seul congrès international auquel j'assisterai dans le reste de ma carrière à venir. Donc vraiment, oui, je pense qu'il faut vraiment y aller. Et il faut dépasser nos peurs. Et oui, voilà. Pour moi, ça va être une exceptionnel, quoi. Voilà.
Comme vous dites, il faut y aller. Je suis Maria Witt, qualifiée de chargée des normalisations bibliographiques documentaires, l'autre fois catalogueuse ou responsable des catalogues, spécialiste des métadonnées, aujourd'hui on peut dire, ou métadoniste pour faire plus moderne. J'ai fait mes débuts de cette carrière internationale, carrière entre guillemets internationale à l'IFLA, a posteriori par rapport à déjà à d'autres normalisations que j'ai fréquenté, à savoir l'Organisation internationale des normalisations. Mais je profitais de... Nous étions nombreux, une quarantaine des bénévoles organisant le congrès de Paris, à faire appel au, à large public bibliothécaire de rejoindre nos troupes. Donc c'était à Paris en 89, c'est vieux, c'est avant Internet, la messagerie était sur les tableaux. On s'est débrouillé pour organiser un des plus grands congrès à l'époque. Il y avait 3000 congressistes et ce congrès a eu un grand succès. Alors, quant à la participation individuelle, ça apporte bien entendu à nous-mêmes, à nos établissements, parce qu'on peut puiser dans l'expérience d'autres bibliothèques et ensuite appliquer ce qui s'est fait. Pour ma part, à la Villette, on a appliqué plein de solutions venant d'ailleurs. J'ai pu, grâce aux documents de la Library of Congress, rédiger des cahiers des charges en bonne et due forme pour les nouvelles OPAC. Bon, la chance ne m'a pas été donnée de continuer à la Villette jusqu'au bout, mais il y avait des solutions qu'on a pu mettre en place. En même temps, on mettait en valeur ce qui se passait dans les établissements. Pour parler encore d'autres, ne pas parler de soi-même, à la session de 98 à Amsterdam, j'ai pu intégrer dans la section catalogage dont j'étais la secrétaire à l'époque, les communiqués sur l'utilisation des fichiers d'autorité à Fresnes, parce que c'était exemplaire. Donc, dès ces fêtes, on a fait la promotion. Il faut savoir que, effectivement, le conseil qu'on peut donner, commençons par, comme volontaire, observons, mais il faut y aller dans les sections, peut-être sans prendre la parole, mais écouter, et ensuite choisir sa section, choisir sa voix. Et essayer de convaincre nos établissements, vos établissements, parce que je serai en fin de carrière bientôt, d'appuyer ces démarches. Parce que sans l'appui managérial, on a beau vouloir être volontaire, on n'obtient pas les gains de cause complètement. Et cette histoire d'investissement, quelqu'un a parlé hier d'investissement dans des bibliothèques pour 1 euro investi, parce que les bibliothèques, on ne sait pas les calculer, 1 euro d'investi, on obtient 2 euros à la sortie. Est-ce que c'est du simple au double? Je pense que c'est même plus du simple au double. On investit, mais on peut recevoir énormément. Et ces contacts au niveau du réseau professionnel, au bout de quelques années, 25 ans, sont vraiment trop plus que précieux.
Je vais me permettre, excusez-moi, je vais compléter parce que je vais donner mon expérience aussi et c'est pratico-pratique. Au niveau de l'autorisation des établissements, moi, voilà comment j'ai obtenu la possibilité d'aller à l'IFLA, c'est de faire d'abord une bourse, je suis passée par cette étape, et puis ensuite j'ai pu faire valoir l'inscription à l'IFLA comme un stage de formation comme une formation, 400 ou quelques euros, c'est 3 jours à Mediadix, hein, c'est ça, à peu près. Donc, c'est dans des... Non, mais bon, ou 300, enfin bon. Et puis, donc, du coup, les jours qui sont au mois d'août, je sais qu'il y a beaucoup de réticence par rapport à la période, mais ça, peut-être en dire un mot, on ne peut pas faire autrement. Beaucoup de pays reprennent leur rentrée fin août. Hein, c'est comme ça, c'est nos vacances souvent pour la plus... Mais c'est en août, donc il faut aussi dépasser ça. Et donc, c'était considéré comme journée de formation, donc même pas pris sur mes vacances. C'est une des possibilités que je vous livre. Hein, et donc, il faut aussi convaincre, mais le groupe de préparation saura le faire auprès des différentes tutelles. Autre question.
Oui, non, ça n'est pas une question, c'est simplement pour aider aussi les barrières à tomber, dire qu'on obtient énormément d'aide, d'informations de la part du CFIBD. Et vraiment, moi, j'ai tout appris par le CFIBD, pas seulement en France, mais également quand on est à l'IFLA, parce qu'il y a une réunion des francophones au début du congrès dans lequel on nous donne des tas de conseils aussi. Après ça, il y a l'IFLA lui-même qui organise une réunion pour les premiers arrivants. Et et les gens sont extrêmement gentils. Donc, ça aide beaucoup, non ? Oui, voilà, c'est ce que je voulais dire.
C'est vrai.
Bon.
Vous entendez ? Ouais. Oui. Juste par rapport à l'anglais, en fait, vous en parliez tout à l'heure. Moi, j'avais très, très peur, en fait, l'année à Helsinki, parce que ça faisait 6 ans que je n'avais pas pratiqué l'anglais. Ouais, mais c'est pareil, en fait, enfin, que ça fasse 6 ans ou 10 ans ou 20 ans, en fait, on ne perd pas, mais... Enfin, voilà, c'est comme le vélo. Et en plus, d'autant plus que je devais faire mes communications en anglais. Alors, c'était impressionnant, comme vous pouvez imaginer, mais ne vous inquiétez pas, ça revient, en fait. Ça revient très, très vite, oui, oui. Et aussi, la majorité des délégués, l'anglais n'est pas leur langue maternelle. Donc, vous n'êtes pas seul, en fait. Tout le monde est... Enfin, non, pas tout le monde, mais la majorité, quand même, des délégués cherchent leurs mots. Mais ce n'est pas grave, en fait. Il y a de l'indulgence. Ce n'est pas un problème. Donc, ça, il ne faut pas que ça vous inquiète. Il ne faut pas que ça vous freine pour faire des posters. Il ne faut pas que ça vous freine pour... faire des communications, c'est pas du tout un problème.
Oui.
Alors, puisque Annick me chatouille sur les tarifs de Mediadix, je pense que en fait, c'était me tendre une perche pour que j'annonce que le 13 novembre, nous ferons une journée d'études gratuite, comme toutes nos journées d'études, de sensibilisation sur les enjeux de l'IFLA 2014, et que nous ne sommes pas le seul centre de formation à le faire, puisque Mediatron-Alpes prévoit aussi quelque chose. Donc, merci pour cette perche tendue.
Non, non, au contraire, c'était pour dire que c'était très simple à faire, hein, et que vous n'étiez pas très cher. Parce que 300 euros, c'est souvent le coût d'une journée dans les organismes privés.
Juste pour compléter, je vous passe la parole après, juste pour compléter sur l'anglais, sachez qu'il y a des cours d'anglais qui sont proposés par un certain nombre d'organismes, notamment il va y en avoir proposé à l'ENSIB, des cours d'anglais pour les conférences, des choses comme ça, et puis il y a d'autres organismes qui proposent, comme Mediadix, Media, tout ça, alors je ne sais pas lesquels en ce moment, mais proposent de l'anglais pour les bibliothécaires. Okay.
C'était juste pour demander s'il y avait un congrès de la IFBD prévu également en 2014.
Oui, en effet, il y en a un. Il va être à Limoges. Après le congrès, il me semble. Voilà. Donc, parce que les conférences satellites, elles peuvent être avant ou après le congrès de l'IFLA. Et l'IFBD va faire son congrès à la BFM de Limoges, juste après le congrès. Donc, ça va être, le 25, 26, août. Et oui, et il y aura un bus pour aller. Ça va être sympa. Ça va être comme une colonie de vacances. C'est un bus pour aller de Lyon jusqu'à Limoges. Voilà.
C'était également pour témoigner que j'ai participé au congrès de l'IFBD en 2008 à Montréal. Et que voilà, c'est pour ça que je suis dans cette salle aujourd'hui pour envisager l'IFLA en 2014.
Mais là, on avait commencé par la langue française. Hein. C'était un début. Bon. Mais pour l'anglais, je voulais juste dire... Comment ? Ah oui, l'AIFBD, Association internationale francophone, bibliothécaire, documentaliste. En fait, ça regroupe des collègues de tous les pays francophones, voilà, et qui a l'habitude de faire un congrès parallèle ou après, tous les 3 ans, c'est ça, Pascal ? Voilà, tous les 3 ans. La dernière fois, c'était en Martinique, sur le développement durable, et cette année, à Limoges, à la bibliothèque francophone multimédia. Donc, si vous ne pouvez pas à l'AIFLA, allez peut-être à l'AIFBD. Il y a, voilà.
Oui, je voulais donner une expérience plus ancienne, je m'en excuse. Mais j'ai été dans les premiers élèves de l'ENSIB, qui ne s'appelait pas encore l'ENSIB, pour préparer le congrès de Grenoble. Je crois qu'il y en a très peu dans la salle qui ont dû connaître cette expérience. Et nous avons passé 1 mois pour préparer le congrès. Et tenez-vous bien, nous avons agrafé toutes les communications en 3 langues de tous les intervenants. Donc c'était assez amusant, ça a été quelque chose d'absolument passionnant. Alors au-delà de l'anecdotique, c'est véritablement un fil rouge professionnel qui m'a suivi tout au long de ma carrière. J'ai tissé des relations aussi bien en France, il n'y avait plus de hiérarchie. Il y avait des dinosaures de la BNF avec lesquels j'avais partagé les chambres à la cité universitaire. Je veux dire, ça a transformé ma vie professionnelle. Et après, j'ai fait des convoiements, puisque j'étais conservateur en chef à la Bibliothèque nationale aux Estampes, mais j'avais un autre regard avec la relation internationale, et ça m'a beaucoup facilité la suite. Et j'étais loin d'être un virtuose en anglais, mais j'avais aussi d'autres notions de langue. J'ai utilisé tout ça, et effectivement, pour rejoindre notre plus jeune collègue, les gens sont extrêmement gentils, extrêmement accueillants. Beaucoup bafouillent un anglais qui n'est pas beaucoup meilleur que le nôtre. Donc allez-y, je veux dire, on apprend beaucoup, on s'amuse beaucoup, ça vaut vraiment la peine. Et après, en 89, j'étais dans les organisateurs, et pour ceux qui vont organiser, je vais essayer de les aider au maximum. C'est véritablement un truc à ne pas manquer. Merci, et on va réussir.
Je voulais dire aussi que si vous parlez d'autres langues, c'est permis aussi, hein. Bon, c'est vrai que l'anglais nous sert de vecteur, mais y compris pour les volontaires. Personnellement, je suis plus habile dans les langues latines. Je me présente plutôt pour accueillir les voilà. Hein, il ne faut pas oublier ça, parce que l'anglais, c'est bien. Et d'ailleurs, sur l'anglais, il y a différents niveaux de participation. Je réinsiste, là, on parlait anglais de conférence, de communication. Vous n'allez pas tous faire une communication. Vous n'allez pas tous participer à une réunion en anglais. Donc, c'est un anglais déjà de base, je dirais, qui est quand même, bon, bah, qui se réfère aux souvenirs scolaires. Je crois, j'avais compris qu'au niveau CFI ou de l'accueil des bénévoles, il y aurait peut-être, je ne sais pas, des révisions ou peut-être un vocabulaire. Enfin, je crois qu'il faut l'envisager, quoi, un rafraîchissement. Voilà, et j'insiste aussi sur la participation par le poster. Moi, je suis une friande des posters à l'IFLA. J'y passe presque une journée à tout défricher, parce que je trouve qu'il y a autant de richesses pratiquement dans les posters, dans les communications, et les gens sont au pied de leurs posters pour vous expliquer ce qu'ils ont fait. Et je peux vous dire que, connaissant les dons de communicants de certains de nos collègues, on peut en faire des posters. Parce que des fois, les posters, c'est des paquets un peu difficiles à absorber. Alors, je reprends ce qu'a dit Annie hier, je finirai là, et une autre question ou deux. Faut vraiment faire connaître ce qu'on fait, parce que je crois que le temps est venu de plus avoir les yeux grands ouverts devant les bibliothèques nordiques, etc. Je peux vous dire, il y a aussi des sessions de l'IFLA qui sont casse-pieds, hein, des expériences qui sont pas spécialement novatrices, et qu'on a largement de quoi faire, sauf qu'on se présente pas, on n'y va pas, on montre rien. Donc là, allez-y, voilà.
Je vais passer la parole à des collègues qui vont vous parler des volontaires, mais avant ça, je voulais vous dire, vous avez peut-être remarqué les posters là, à côté. Ce ne sont pas des posters IFLA, ce sont des posters qui ont été faits par des élèves de l'ENSIB, puisqu'on leur fait faire des posters, et il y a un de ces posters-là qui va être présenté à l'IFLA, puisqu'ils ont proposé leur poster et ils ont été sélectionnés. C'est celui sur les data logs, vous pourrez aller voir, mais c'est typiquement le genre de poster que vous pouvez présenter. Il y a des cours en ligne, si vous voulez, sur les posters.
Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, c'était simplement pour me présenter, puisque c'est moi qui vais coordonner, je suis Elisabeth Lemot, le recrutement et la coordination générale du volontariat pour IFLA 2014. Donc, je fais partie de l'équipe projet. Donc, on est 6 ici dans l'équipe projet. Alors, je peux reprendre complètement ce qu'a dit Anne-Françoise tout de suite sur le fil rouge, moi qui m'a conduit aussi à avoir, d'une part, des activités au sein de l'IFLA depuis 1989. Donc, moi, j'ai pris ce fil rouge en 1989 en continuant par un engagement très fort et depuis de longues années dans le CFIBD, où je suis experte actuellement au sein du conseil d'administration. Donc, nous allons conduire cette action de recrutement de volontaires à partir d'aujourd'hui. Enfin, le lancement donc, a été fait officiellement au congrès de l'ABF par le biais des petits prospectus que vous avez pu prendre sur le stand. Donc l'appel à volontaires est également diffusé sur les réseaux sociaux, sur Facebook, et il fera l'objet un peu officiel au directeur des bibliothèques avec des envois aux présidents des collectivités territoriales qui seront effectivement informés de l'IFLA en même temps ou un peu en décalé par rapport au directeur de bibliothèque. Donc en ce qui concerne l'action volontariat, tout est dit à peu près sur le prospectus. Ce que je vous encourage à faire, c'est effectivement pour ceux qui sont intéressés d'envoyer leur CV sur l'adresse générique volontaire.ifla-lyon 2014. À la suite donc on va coordonner cette réception des CV et à la suite de ce CV, on vous enverra un formulaire. Donc, il y a une organisation régionale qui va être mise en place aussi. Je ne vais pas toute la détailler ici. Nous sommes une équipe, pour le moment de 8, mais appelée à grossir organisée régionalement pour le recrutement. Et à la suite du formulaire, vous serez contacté pour un entretien qui fera le point sur les démarches que vous avez faites ou pas avec vos établissements par rapport aux aspects pratico-pratiques, etc., ordre de mission, pas ordre de mission, problème d'hébergement, etc. Et également un test en anglais pour vérifier les compétences de niveau sans que, avec le formulaire vous demandant de remplir des cases niveau de base, niveau intermédiaire, niveau avancé. Voilà. Mais je reprends ce qu'ont dit des collègues là tout de suite, à savoir qu'on peut se débrouiller à l'IFLA avec un anglais qui n'est pas forcément l'anglais classique, bien parlé par les anglophones, etc. Et que pour être volontaire, bien sûr, vous aurez à répondre essentiellement pour ceux qui le deviendront et majoritairement à des questions de congressistes parlant l'anglais anglophone, anglo-saxon et à peu près tout le monde, tous les congressistes. Mais il y a aussi d'autres langues qu'il faut savoir, qui seront aussi requises. Je pense en particulier à l'espagnol, l'italien, l'allemand, etc. Et pourquoi pas d'autres langues. Voilà. Bon, donc, peut-être aussi... Puisque Daniel... Pardon ? Ah oui, alors pour les... Oui, dans les... La contrepartie, une des contreparties, je vais vous les énumérer, les contreparties offertes aux volontaires sont tout d'abord l'inscription gratuite à la conférence, puisque l'inscription à l'IFLA, c'est cette année 475 €. Si on s'inscrit dans des délais, la première inscription, c'est-à-dire avant le 1er mai ou 15 mai, je ne sais plus. Si on s'inscrit plus tardivement, on arrive à 700 €. Donc c'est déjà et en contrepartie de cette les volontaires auront une inscription gratuite contre 6 demi-journées de travail. Alors pour le moment, on ne peut pas dire exactement, je ne peux pas dire comment ce planning va être élaboré, puisque ce planning, il va falloir le faire à partir de février 2014. Le recrutement devant être terminé en principe en décembre. Les plannings après seront à mettre en place avec KIT, qui est l'organisateur du congrès. Hein, pas l'IFLA, KIT, donc est une société allemande qui organise tout l'aspect logistique, etc. Et donc, les 6 demi-journées pourront soit être séparées en 6 demi-journées ou pour ceux qui, après tout, le souhaiteraient, être groupés en 3 journées complètes, etc. Donc ça, bon. L'autre deuxième contrepartie, c'est l'invitation à la soirée culturelle du 19 août 2014. Donc ça, c'est quelque chose qui a été négocié avec l'IFLA parce que ce n'était pas évident de pouvoir offrir cette contrepartie aux volontaires. Troisième contrepartie, les repas du midi qui seront pris en charge aussi par la conférence. Donc, au-delà de ces repas du midi, la mise à disposition d'une salle pour les volontaires, donc ici dans ce
Excuse-moi,
palais,
Elisabeth,
dans
son, parce congrès, que voilà. Faudrait qu'on arrête.
Et la cinquième, la quatrième contrepartie, c'est la prise en charge par le comité national, donc sur le budget du congrès, de 3 hébergements en résidence, 3-4 nuits, on ne sait pas, 3 participations à l'hébergement, c'est ce qui est marqué. En résidence universitaire, nous sommes en train de négocier avec le CROUS pour que le CROUS mette à disposition l'année prochaine des volontaires, environ 200 chambres, enfin, c'est ce que je leur ai demandé, à des prix qui peuvent évoluer, grosso modo 30 €, enfin, plus ou moins, quoi, une fourchette qui peut être un peu plus basse ou un peu plus haute. Voilà.
Ils sont tout est sur le track.
Voilà, tout est sur le track.
Et sur le stand. Donc, que le fil rouge démarre pour la plupart d'entre vous à partir du 14 août. Et je pense qu'on va refuser du monde si on vous a convaincu. Voilà. J'espère que vous pourrez continuer tout ça sur le stand et bien après. Donc, j'espère qu'on vous en aura convaincu au moins une partie d'entre vous et qu'on se retrouvera à Lyon l'année prochaine. Merci à tous. Merci de faire revenir les documents par ici. Le surplus, voilà. Sur la section enfants et les revues aussi. C'est voilà.